Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est vendredi, un vendredi d'avril qui semble un vendredi presque de, je sais pas, février ou novembre. En tout cas, c'est pas chaud, mais paraît-il qu'on en a comme ça pour quelques jours à avoir un printemps nordique. Et c'est drôle parce qu'il y a un événement qui bat son plein qui s'appelle Printemps nordique. Alors, je suis certaine que c'est arrangé avec le gars des vues ou de la météo, je ne sais pas, ou la fille aussi. Alors, c'est Hélène Denis, en parlant de filles, qui vous accompagne jusqu'à 11h30. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Oui, alors tant mieux. Est-ce que vous avez commencé à faire de la moto?
Depuis le début de ma saison, oui.
Okay.
J'ai commencé depuis la journée, en fait, depuis l'ouverture.
L'ouverture de la saison, c'est...
Le 15 mars.
Ah oui, c'est en même temps que les pneus,
neigé,
hein,
le 15, oui, c'est exact. Mais j'ai commencé à rouler le 18, le 19, quelque chose comme ça.
Et ce matin?
Oui, ce matin aussi.
Oui, oui, il faut s'habiller chaudement. Hein?
Oui, on a eu des journées à moins 10 hier, d'ailleurs.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, c'est... Mais j'ai pas très loin à faire, donc c'est pas si dérangeant.
Oui, puis la clé du succès, c'est de s'habiller chaudement.
Puis c'est de se réveiller le matin, semble-t-il.
Comment ça?
C'est ce qu'on m'a déjà dit, que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Ah, OK.
Voilà.
Parce que là, on parlait de météo. Si on se lève plus tôt, on va avoir moins froid?
C'est exact. Parce qu'on... Oui.
Avez-vous vos éphémérites
oui,
ce matin?
Oui, je les ai aujourd'hui.
Bon, parce qu'il y a eu quelques petites difficultés. Vous avez fait une chronique, là, mais
oui,
c'est...
Non,
vous aviez perdu
hier,
quoi, les données?
J'ai eu tous les problèmes inimaginables dans la préparation d'un éphémérite. Bien voilà, je les ai eus hier.
Bon.
Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que le 6 avril est la journée mondiale du sport pour le développement et de la paix.
Ah oui.
C'est beau, hein?
Belle journée, oui.
Et je remonte au 6 avril 1199, car j'aime beaucoup l'histoire, et le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, est tué au siège de Chalut, près de Limoges. En 1652, des colons hollandais fondent leur colonie du Cap, ancêtre de l'Afrique du Sud. 1665, Barbe Poisson, quel joli nom. Barbe Poisson, l'épouse de Gabriel Celle Duclos, accouche de triplé, ce qui est la première naissance multiple d'Européens au Canada.
Elle s'appelle 1600... Barbe.
Barbe Poisson, c'est original.
Aïe, 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 j'ai jamais entendu ça de ma vie.
En 1692, Louis de Buade, comte de Frontenac, est nommé gouverneur de la Nouvelle-France. Le roi de Naples, quant à lui, en fait mener les premières fouilles sur le site de Pompéi en 1748. 1896, les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne s'ouvrent à Athènes. Les Américains Robert Peary et Matthew Henson et quatre Inuits atteignent le pôle Nord en 1909. En 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Nous avons en 1930 découverte du téflon par des chercheurs de DuPont. Sous l'égide de l'ONU, en 1948, l'Organisation mondiale de la santé est créée à Genève. Pierre-Éliott Trudeau devient chef du Parti libéral du Canada et premier ministre en 1968. 1972, une bombe fait un mort à la mission commerciale de Cuba à Montréal. Les présidents du Rwanda et du Burundi périssent dans un attentat, ce qui est le point de départ du génocide en 1994. En 2000, la direction d'Air France suspend l'ordre donné à ses pilotes de parler en anglais avec la tour de contrôle de Roissy. Et en 2003, le bilan de pneumopathie atypique, le SRAS, atteint les 100 morts dans le monde avec le décès à Hong Kong d'une femme âgée de 78 ans. Et pour ce qui est des naissances, le peintre et dessinateur français Gustave Moreau est né en 1826. Le compositeur autrichien Oscar Strauss est né en 1870, un 6 avril. Houdini, l'illusionniste, est né en 1874 à Budapest, un 6 avril. Et Bob Marley est aussi né un 6 avril. Et pour ce qui est des décès, nous avons l'auteur de science-fiction Isaac Asimov, Stravinsky, qui est décédé en 1971, et Albrecht Dürer, en 1528, est décédé un 6 avril.
Et nous avons appris ce matin la mort de Jacques Higelin. À 77 ans, on va faire jouer du Jacques Higelin un petit peu plus tard dans l'émission. Merci Mathieu.
Avec plaisir.
À la une de la presse, exclusif accommodement vestimentaire, la GRC n'a reçu qu'une seule demande, alors que la mairesse de Montréal demande au SPVM de se pencher sur la question. Des documents révèlent que la GRC n'a reçu qu'une seule demande d'accommodement religieux au Québec ces dernières années. Une autre exclusivité, sondage, les Montréalais globalement favorables à l'immigration. Des chocolats pour endormir ses victimes. Une enquête du SPVM entraîne une arrestation à Atlanta. Pose chic, le client est-il encore roi? Nous avons testé le service de 5 grands magasins du centre-ville. Sondage commandé par la Ville. Alors, il y a plusieurs paragraphes consacrés à ce dossier globalement favorable à l'immigration, disant élaborer une stratégie anti-rumeurs. Le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de la Ville de Montréal, BINAM, a commandé un sondage pour tenter d'évaluer les préjugés à l'égard des immigrants. Les réponses à plusieurs questions permettent de constater que les Montréalais se montrent globalement favorables à l'immigration. Ainsi, 64 % des répondants estiment que les nouveaux arrivants représentent un atout pour Montréal, tandis que 25 % voient dans leur présence un problème. Le coût de sonde indique que 55 % des Montréalais estiment que les immigrants entraînent des retombées positives pour la métropole, alors que 24 % jugent les retombées au contraire plutôt négatives. Enfin, 61 % des répondants croient que les relations avec les communautés culturelles sont plutôt harmonieuses. Malgré une perception relativement positive de l'immigration, certaines réserves transpirent. Ainsi, 69 % des répondants jugent que la langue représente un obstacle majeur à l'accès des immigrants au marché du travail. Questionnés sur les accommodements, 52 % des participants croient que les immigrants en demandent trop. Le malaise est également palpable dans certaines autres questions, alors que 42 % des répondants estiment que les immigrants cherchent à imposer leur culture, perception avec laquelle 55 % des participants ne sont pas d'accord. Même clivage sur l'apprentissage du français, 41 % des répondants croyant que les immigrants refusent de se mettre à la langue de Molière, tandis que 53 % jugent erronée une telle perception. Et finalement, les Montréalais ne se font pas d'illusions. 69 % d'entre eux estiment qu'il est plus difficile pour les nouveaux arrivants de se trouver un emploi. La majorité des répondants, 71 % juge que la maîtrise du français représente le principal obstacle pour leur intégration sur le marché du travail, suivi de près de 60 % de près entre parenthèses 67 % par le manque de reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger. Objet de maints débats, le port de signes religieux est cité par seulement 31 % des répondants comme un obstacle à l'intégration en emploi des nouveaux arrivants. Des chocolats pour endormir ses victimes, c'était comme un cadeau de Noël avant l'heure pour Berthe Cadorette. La septuagénaire tentait depuis si longtemps de vendre sa maison de Rivière-des-Prairies et enfin un acheteur se montrait intéressé. Quand l'homme est arrivé pour visiter les lieux le 12 décembre, bouteille de vin et chocolat à la main, elle n'aurait jamais soupçonné qu'il s'agissait d'un dangereux prédateur. L'homme avait vu l'annonce de Mme Cadorette pour une maison à vendre et l'avait appelée pour avoir des informations. On s'était parlé au téléphone à plusieurs reprises et il avait pris rendez-vous. Je n'avais pas de raison de ne pas avoir confiance. Il était très gentil, drôle, sympathique, Un jeune de 45 ans, habillé sport, a raconté la retraitée de 72 ans hier en entrevue avec la presse. Il m'a montré des photos de sa femme et de ses enfants. Il disait qu'il avait des amis dans le coin. Il m'a enfiroapé. Après avoir visité la maison, l'homme a fait une offre d'achat que Mme Cadorette a acceptée. Elle a proposé d'appeler le notaire et a demandé au futur acheteur une pièce d'identité. L'homme n'en avait aucune sur lui. Un simple oubli, assurait-il. Il a dit que sa femme allait lui envoyer le nécessaire par message texte dans un instant. En attendant, c'était l'heure de célébrer, disait-il. Il avait une bouteille de vin blanc. J'ai dit « Oh mon Dieu, arrêtez-moi ça, je ne prends pas de vin pendant le jour ». Alors, il a ouvert sa boîte de chocolat en disant « Il faut qu'on fête, il faut célébrer, nous, les Juifs, on fête ça ». Il a pris le chocolat, il m'a mis la main sur le cou et il m'a mis le chocolat dans la bouche, remémore Mme Cadorette. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle voulait tout de même finir le processus d'achat, elle s'est sentie défaillir. « J'ai pensé que j'avais une baisse d'énergie. Je lui ai dit « Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Je suis tellement fatiguée. Je ne tiens plus sur mes jambes. Je suis plus capable. Je vais m'étendre. » Elle est tombée endormie. Elle s'est réveillée le lendemain et avait encore du mal à tenir debout. La chaîne en or qu'elle portait au cou lors de la visite était disparue. Elle s'était fait voler ses bijoux, de l'argent comptant, son ordinateur, un téléphone cellulaire neuf et une collection de pièces de monnaie antiques. Il était déterminé, c'était un professionnel, constate-t-elle. Près de 4 mois après cette agression au domicile, le service de police de la ville de Montréal a annoncé hier l'arrestation aux États-Unis d'Hamid Chekakri, 47 ans, un résident de la banlieue d'Alger, en Algérie. L'homme fait face à une kyrielle d'accusations pour avoir drogué et volé plusieurs personnes âgées à Montréal et à Ottawa, alors qu'il se trouvait au Canada en décembre dernier. Hamid Chekakri restera derrière les barreaux jusqu'à son audience d'extradition le 18 avril. D'ici là, Berthe Cadorette espère que s'il y a d'autres victimes, elles oseront se manifester. La dame estime que les personnes âgées doivent être très prudentes avant d'ouvrir la porte à un inconnu. Lorsque c'est nécessaire, par exemple, pour la visite d'une maison à vendre, elle suggère aux gens de cacher d'abord leurs objets de valeur et leurs sacs à main. « Il faut se protéger », dit-elle. Après plus de 2 ans de travaux, le ministre de l'Agriculture, Laurent Lessard, dévoile ce matin la première politique bioalimentaire du Québec. La plupart des acteurs de la chaîne alimentaire québécoise applaudissent déjà l'arrivée des grandes orientations, soutenues par de nouveaux programmes pour les gens qui travaillent du champ à l'assiette. Le ministre Lessard a annoncé plus tôt cette semaine les détails de quelques programmes spécifiques. Les agriculteurs qui veulent moderniser leurs infrastructures, notamment pour s'adapter aux nouvelles normes sur le bien-être animal attendu des consommateurs, auront de l'aide. Les petits producteurs, dont le chiffre d'affaires est de moins de 50 000 $, auront aussi droit à des fonds. Les producteurs de légumes en serre peuvent obtenir un rabais d'électricité. Le dévoilement de la politique bioalimentaire gouvernementale 2018-2025 se fait finalement ce matin par Laurent Lessard et Philippe Couillard sur une ferme maraîchère de l'île Perrault. Le but de l'exercice, donner les grandes orientations du Québec pour l'alimentation, autant pour favoriser de saines habitudes au moment des repas que pour établir des principes d'agriculture qui répondent aux attentes des consommateurs. Le spectre est large. Quand on travaille sur des questions comme l'obésité ou la pauvreté, on ne peut pas travailler avec un seul ministère. La santé est liée à l'alimentation. Le développement durable est lié à l'alimentation, dit Sylvie Bernier, ambassadrice des saines habitudes de vie. Yulia Skripal est sortie hier de son silence pour dire qu'elle allait de mieux en mieux après avoir été empoisonnée en Angleterre avec son père, un ex-espion russe, à quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à cette affaire. La Russie, accusée par Londres d'être responsable de cet empoisonnement à l'origine de l'une des plus graves crises diplomatiques entre Moscou et les Occidentaux depuis la guerre froide, a averti le Royaume-Uni que ces questions légitimes ne pourraient être ignorées. « Je me suis réveillée il y a maintenant plus d'une semaine et je suis heureuse de dire que je me sens de mieux en mieux chaque jour, a déclaré Yulia, 33 ans, cité dans un communiqué de la police britannique.
C'est pas comme si notre peau était faite de chocolat. Alors ne cherchons pas de toi.
Jason Bajada, Si je craque.
Devoir, un beau tableau, Marc Chagall, la Tour Eiffel 1929, huile sur toile 100 par 81,8 cm, Musée des Beaux-Arts du Canada, Ottawa. Musée des Beaux-Arts du Canada sacrifie un Chagall pour sauver une œuvre mystère, le secret entoure l'acquisition que souhaite financer l'institution muséale. CHU Sainte-Justine et CHUM, la fusion sera contestée devant les tribunaux. patrimoine, la migration des orgues des paroisses rivalise de créativité pour redonner voix aux grands instruments. Elles se vident, leurs ressources s'amenuisent et elles perdent aussi la voix. Une petite proportion des églises qui veulent entretenir leurs orgues peuvent compter sur une aide gouvernementale, mais plusieurs paroisses doivent se montrer créatives pour financer l'onéreuse restauration des instruments vieillissants. Le monde purge de monde libéré de prison. La justice allemande sert un camouflet à Madrid en rejetant la rébellion comme motif d'extradition. Visite de chantier au futur campus des sciences. Zeitgeist, ça signifie l'air du temps, n'est-ce pas, Mathieu? La colère, une arme redoutable, c'est la chronique de José Blanchette. Et Alena, le Canada croise les doigts. Le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa vendra la Tour Eiffel, un des tableaux du peintre Marc Chagall, 1887-1985, qu'il possède aux enchères de Christie's à New York le 15 mai. L'aliénation de cette pièce de la collection devrait rapporter entre 8 et 10 millions. On veut sauver une autre œuvre qu'on estime plus importante dans l'histoire de l'art et pour le patrimoine canadien qui va quitter le Canada sinon, et sur laquelle on a un premier droit de refus. Alors, il faut faire des sacrifices, a indiqué au Devoir le directeur général du MBAC, donc le Musée des beaux-arts du Canada, Marc Maillet. Peint à Paris en 1929 pendant la période la plus heureuse de la vie de l'artiste, indique en anglais le site de Christie's, ce chef-d'œuvre est autant une ode à Bella, la femme de Chagall, qu'à la ville qui a vu leur amour fleurir. Acheté en 1956 de la Pierre Matisse Gallery de New York par le MBAC pour 16 000 $, le tableau devrait, selon les observateurs, quitter le Canada à la suite des enchères. Quelle est cette œuvre qu'il serait tragique que le pays perde? Le propriétaire-vendeur ayant exigé l'anonymat ainsi que celui de la pièce, impossible d'avoir une réponse. Il aimerait lui aussi que l'œuvre reste ici. C'est un objet d'importance patrimoniale au pays. Je ne peux même pas vous dire si c'est une œuvre canadienne ou pas. Je ne peux en dire plus et je le regrette. La situation serait tellement plus facile pour moi et pour le musée, explique M. Maillet. Une décision inacceptable pour Ninon Gauthier, présidente de l'International Association of Art Critics Canada. C'est d'une bêtise monumentale. La collection du musée, rappelle Marc Maillet, comprend toujours des estampes du peintre russo-français, une suite de dessins illustrant Daphnis et Chloé, et souvenirs d'enfance, un Chagall plus important, selon le directeur, plus souvent emprunté, alors que la Tour Eiffel a été aussi souvent en réserve que sur des murs. On peut bien représenter Chagall avec ce qu'on a. Est-ce que l'annonce de l'acquisition risque de nourrir plus tard la controverse quand le public saura pour quelle œuvre on a bradé un Chagall? Ça m'étonnerait, répond Marc Maillet, serein face à la décision. Fort d'un avis juridique jugeant illégale la fusion en 2015 des conseils d'administration du CHUM et du CHU Sainte-Justine, les médecins de l'hôpital pédiatrique s'adresseront aux tribunaux espérant la faire annuler. En Assemblée générale, le 22 mars dernier, les médecins du CHU Sainte-Justine ont adopté une résolution autorisant le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens à entamer des actions juridiques. Ce sont 150 médecins sur une possibilité de 367 qui assistaient à cette Assemblée générale, indique la présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la docteure Valérie Lamarre. La résolution a été adoptée à l'unanimité. Dans l'avis juridique dont le Devoir a obtenu copie, maître Sylvain Lucier du cabinet Osler, Hoskin et Harcourt conclut que le décret qui a mené à la fusion des deux conseils d'administration n'a pas respecté la loi et peut être annulé. Pour aller de l'avant, le CMPD, donc le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, doit déposer une demande de nullité par pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure. La docteure Lamarre dit qu'elle compte agir en ce sens d'ici la fin de la présente session parlementaire. Les médecins estiment que Gaétan Barrette a omis de mener une consultation prévue à la loi. Une nouvelle chaire de recherche devrait voir le jour d'ici un an entre les murs de Polytechnique Montréal pour répondre à une question cruciale. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour accroître la cybersécurité tout en établissant les limites qui s'imposent? Le professeur au département de génie informatique et de génie industriel de Polytechnique Montréal, José Fernandez, devrait être à la tête de cette nouvelle chaire dont l'objectif est de se pencher sur l'un des sujets de l'heure dans le monde des nouvelles technologies. Le mandat, c'est d'étudier l'application de l'intelligence artificielle en cybersécurité, autant pour les systèmes de technologie de l'information traditionnelle que les systèmes cyberphysiques, a expliqué le chercheur au Devoir en marge d'une conférence présentée jeudi dans le cadre d'un colloque de l'Association de sécurité de l'information du Montréal métropolitain. Face à la grogne populaire, Walmart est revenu sur ses pas jeudi. Après avoir congédié des dizaines d'employés avec une déficience intellectuelle la semaine dernière en supprimant un programme qui favorisait leur embauche, l'entreprise a annoncé qu'ils pourraient retrouver leur travail s'ils le souhaitent. L'ensemble des anciens participants du programme qui souhaitent revenir en succursale sous les mêmes conditions qui étaient offertes auparavant sont invités à le faire, a confirmé Walmart Canada dans un courriel envoyé au Devoir. De son côté, la directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, Annick Larose, estime que la marche arrière de Walmart ne résout en rien le problème d'accessibilité à l'emploi des handicapés intellectuels. C'est difficile pour eux, mais c'est aussi problématique, voire catastrophique pour les familles qui s'occupent d'eux, confie celle qui est aussi la mère d'une enfant trisomique. Les occasions sont rares pour ces personnes de pouvoir sortir à la maison, se faire des amis et côtoyer des collègues, rappelle-t-elle. La meilleure façon de s'intégrer dans la société, ça reste par le travail. Restez avec nous, le quotidien des quotidiens se poursuit avec la revue de presse du Journal de Montréal.
Bonjour, mur. Bonjour. Chaise. Bonjour, saison de malaise qui s'achève. Bonjour, fête. Amis, je vous aime. J'arrive à pleine lenteur. Il fait noir. Bonjour neige.
travail au noir. Quand le froid nous vandalise, tu dis colon malade pour le restant de nos vies. Bonjour Anne.
Avec pas de casque, il fait noir de bonheur.
Du Journal de Montréal, la mairesse sourit, entre parenthèses, maintenant au baseball. Alors, on la voit justement tout sourire, arborant une casquette des expos. La chronique de Régent Tremblay à ce sujet que je vais vous lire dans quelques instants. Interdit depuis un an, des médecins chargent encore des frais accessoires. Le choc des idées, on tourne encore en rond, José Legault. Démagogue et populiste, la chronique de Mario Dumont, la gauche, bon chic, bon genre, Denise Bombardier et la chronique de Claude Villeneuve intitulée « L'irresponsable Trudeau ». Allons-y donc avec la chronique de Régent Tremblay intitulée « We love the Montreal Expo » avec trois points d'exclamation. « Getting ready for tomorrow's meeting? How do you like my hat? » Valérie Plante sur Instagram. La bonne nouvelle, c'est que Valérie Plante semble avoir compris que les expos ont une très grande importance dans la petite histoire de Montréal. C'est pas tout le monde qui veut le retour des amours. Il y en a plein qui sont contre, comme ils sont contre tout ce qui n'est pas un lit d'hôpital. Mais au moins, la mairesse Plante se sent obligée de souligner son enthousiasme avant la rencontre prévue aujourd'hui avec les investisseurs regroupés autour de Steven Brofman. C'est un pas dans la bonne direction, surtout que c'est la mairesse qui a demandé cette rencontre et non l'inverse, comme plusieurs le pensaient. C'est une très belle manœuvre de récupération politique après son absence trop remarquée au match entre les Blue Jays de Toronto et les Cards de Saint-Louis au Stade olympique. Cette photo veut surtout dire que la mairesse Plante ne sera pas un boulet à traîner pour le groupe de M. Brompton. Pour la suite des choses, c'est déjà un gros point de gagné. On passe d'une mairesse pied sur le frein à mairesse avec une casquette des expos. Le symbole est puissant. Ceux qui sont au courant des travaux réalisés par M. Brompton et les investisseurs sont confiants. La mairesse devrait garder son légendaire sourire en prenant connaissance des informations qu'elle va recevoir. Autrement dit, ce qu'on demande au premier magistrat de la ville, c'est d'être un appui, de seconder le travail qu'accomplit le comité des expos et de ne pas être un autre Jean-Paul Lallier, le maire de Québec qui a présidé au départ des Nordiques. La mauvaise nouvelle, c'est que Valérie Plante publie sur Instagram sa photo souriante avec une casquette des expos assortie d'un texte en anglais qui semble destiné à Mitch Garber, un des actionnaires impliqués dans le retour des expos. Quand la mairesse de la plus grande ville francophone d'Amérique publie un message qui l'engage comme première magistrate de la ville, elle devrait le publier dans la langue officielle de la ville, de sa ville, le français. Surtout que Mitch Garber est le plus montréalais des Montréalais et que son français est impeccable. Quand il correspond via des textos ou par courriel, M. Garber écrit en français ou en anglais selon les circonstances. Et il a un sens de l'humour jamais démenti. Sur Twitter, Mme Plante a envoyé un message en français, c'est mieux. Il est évident que Mme Plante apprend son métier de mairesse au jour le jour. Mais l'important, c'est que la rencontre qu'elle a demandée ait lieu. Cela va lui permettre de se situer dans le groupe de leaders qui œuvrent à ce grand projet pour la ville et le Québec. We love the Montreal Expos. Alors, en page 4, handicapé, charmant et compétent, pendant que Walmart est plongé dans une controverse au sujet de ses associés, entre guillemets, souffrant d'une déficience intellectuelle, des employeurs de partout au Québec confient être très satisfaits de ces employés spéciaux efficaces, des témoignages touchants à lire toute la fin de semaine, donc dans le Journal de Montréal. Toujours des frais illégaux dans les cliniques médicales. 15 % des lieux visés par les enquêteurs de la RAMQ exigent des frais accessoires. Plus d'un an après l'abolition des frais accessoires, environ 15 % des cliniques inspectées par Québec ont été prises en défaut d'exiger des frais illégaux à leurs patients. Au cours des dernières semaines, la RAMQ a envoyé une lettre aux médecins pour les rappeler à l'ordre. « Notre intention ferme est de faire cesser ce type de facturation », indique la porte-parole de la Régie Caroline Dupont. Même si des manquements ont été constatés dans 15 % des cliniques visitées, une seule d'entre elles a été mise à l'amende en 2017-2018. Un médecin qui commet une infraction est passible d'une amende de 2 500 à 25 000 $, des sommes qui peuvent doubler en cas de récidive. La régie soutient que la tolérance est terminée et que dorénavant, chaque acte dérogatoire sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour qu'une amende soit infligée. Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal vers l'arrondissement d'Anjou ira de l'avant et sera officiellement annoncé lundi par le gouvernement du Québec. Les fins détails du projet évalué à 3,9 milliards de dollars seront alors connus. Il a toutefois été possible de confirmer que le premier ministre canadien, Justin Trudeau, doit être présent afin de garantir la participation de son gouvernement au développement de la ligne bleue. Selon nos informations, le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, ne pourrait y assister en raison d'un déplacement à Washington. Le président de l'entreprise, dont un camion Ben s'est encastré dans une passerelle piétonnière de l'autoroute 40 mercredi à Repentigny, se dit assommé par l'accident qui aurait pu faire plusieurs victimes. « On ne ferait rien de dangereux. On n'en revient toujours pas. Ce qui nous console, c'est qu'il n'y a pas eu de victimes », confie Sylvain Chaillé, copropriétaire et président de Cerealex, une compagnie de courtage de grains de Saint-Roch-de-la-Chigan dans la Naudière. Son chauffeur, âgé de 53 ans, compte plus de 30 années d'expérience dans le transport avant son employeur et avait une excellente feuille de route. Selon M. Chaillé, le routier qu'il emploie depuis 6 mois était toujours ébranlé par les événements et était hospitalisé pour un violent choc nerveux hier encore. Il partait de la région de Châteauguay avec son chargement de grains pour se rendre au port de Trois-Rivières quand la benne de son semi-remorque se serait relevée sur l'autoroute 40. À la hauteur du boulevard Brien, elle a heurté de plein fouet la passerelle piétonnière flambant neuve. En attendant les résultats de l'enquête et surtout des expertises mécaniques, Cerealex, qui compte 17 camions, a pris des mesures temporaires comme la double vérification de la benne, ne pas circuler sur les autoroutes et la déconnexion des systèmes hydrauliques. La cause de la famille de demandeurs d'asile qui attend depuis près de 9 ans une réponse d'Ottawa sera finalement entendue par le gouvernement fédéral en mai. Un revirement qui est accueilli avec joie, mais aussi avec prudence. Si rien ne change cette fois, les membres de cette famille auront leur audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié les 30 et 31 mai pour savoir s'ils pourront rester au pays 9 ans après y être arrivés. Leurs audiences ont été annulées à 7 reprises, souvent le jour même. Les raisons évoquées frôlaient parfois le ridicule et étaient imputables au gouvernement. Mais entre-temps, la famille vit sur un siège éjectable car elle pourrait être renvoyée dans son pays d'origine à tout moment. Et finalement, les usagers du train de banlieue qui ont subi les multiples retards dans le réseau au début de l'année, auront jusqu'au 31 mai pour réclamer une compensation au réseau de transport métropolitain. À partir du 11 avril, les usagers du train de banlieue pourront se procurer dans une quinzaine de gares du réseau un feuillet d'inscription qui leur permettra de recevoir 6 titres de transport par train gratuit ou un rabais de 30 % sur le coût de leur titre mensuel. Les clients du RTM auront alors jusqu'au 31 mai pour s'inscrire en ligne avec le code inscrit sur le feuillet.
Je t'aimerai dans le jardin, sous le grand cèdre, au doux printemps, quand dans les arbres monte la sève. Je t'aimerai comme un saumon remonte la rivière. Wananiche, je t'offrirai la douce rose de ma chair. Aime-moi comme le vent gonfle la voile, et dans tes yeux naîtront la lune et les étoiles. Aime-moi de tout ton cœur, et nous toucherons au bonheur. Aime-moi toujours, mon
René Lucier et sa chanson « Je t'aimerai ».
Amorcer la tournée des journaux régionaux, la chronique de Patrick Duquette dans Le Droit intitulée « Zéro déchet, un geste à la fois ». Un bar qui ne produit pas de déchets, c'est possible? Oui, soutient Catherine Marceau, copropriétaire du « Ou quoi? » point d'exclamation, au centre-ville de Gatineau. L'établissement de la rue Laval s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour devenir le premier bar certifié « Zéro déchet » de l'Outaouais. Pour y arriver, le commerce devra récupérer, composter ou réutiliser de 90 à 100 % des déchets qu'il produit. On espère qu'en donnant l'exemple, on va convaincre d'autres commerces du vieux hall de se lancer à leur tour dans l'aventure, explique la jeune entrepreneure de 28 ans. Le verdissement de son commerce passe par une foule de petits gestes qui peuvent avoir l'air insignifiants pris séparément, mais qui deviennent déterminants une fois conjugués. Ainsi, le « ou quoi » offre majoritairement de la bière québécoise en fût plutôt qu'en bouteille à ses clients. Du coup, cela fait moins de verres à recycler, moins de transport et moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En outre, le commerce n'utilise que des pailles compostables. Et encore, il en fournit seulement aux clients qui en réclament. Le ou quoi a aussi revu à la baisse les types d'alcool forts offerts à ses clientèles afin d'éviter le gaspillage. On a poussé le souci du détail jusqu'à presser sur place les agrumes qui accompagnent les consommations alcoolisées. On s'évite ainsi d'avoir à recycler les contenants de jus. Quant aux produits à usage unique, individuels, comme les dosettes de lait ou de crème et les sachets de sucre, ils sont bannis du commerce. Le fait que le ou quoi ne sert pas de repas à sa clientèle facilite ses efforts de réduction des déchets. Chez nous, il ne reste plus grand-chose qui va aux poubelles, à part le papier brun pour s'essuyer les mains, les plats de lunch que les gens laissent chez nous et les produits d'hygiène féminine qui sont produits non par nous, mais par nos clients. Tout le reste, les pailles, les restes d'agrumes, même les sous-verres, ça va dans le compost. Quant à notre recyclage, il comporte surtout des boîtes de carton, résume Mme Marceau. Le ou quoi vient démentir cette perception que les commerces se la coulent douce en matière de récupération des déchets, alors que le secteur résidentiel est mis à forte contribution. Les commerçants du centre-ville sont de plus en plus conscients de ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les choses. Je vois des changements. Ainsi, plusieurs ont changé leurs plats pour apporter, abandonnant le styromousse au profit de plats recyclables, dit-elle. Le ou quoi a obtenu l'aide du CRED, C-R-E-D-D, de l'Outaouais, un organisme vert afin de devenir un bar zéro déchet. Il est aussi en nomination pour les prix Vertuose d'Enviro Éducation. Mme Marceau est cependant moins élogieuse à l'égard de la ville de Gatineau qu'elle trouve peu encline à collaborer avec les commerçants. « Si je n'avais tenu à ce point à faire du compostage dans mon commerce, j'aurais baissé les bras depuis longtemps. » Le ou quoi a un contrat avec le privé pour disposer de ses matières recyclables. Mais il ne produit pas assez de compost, l'équivalent de 2 bacs bruns par semaine pour faire affaire avec le privé. Mme Marceau souhaitait que la ville de Gatineau lui fournisse 2 bacs, en plus d'inclure son commerce dans la collecte du compostage qui passe déjà sur sa rue. Elle était prête à payer les frais encourus. « Rien à faire, j'ai parlé à je ne sais combien de personnes à la ville. Elle n'offre pas le compost aux petites entreprises, point à la ligne. Alors, on se débrouille à droite et à gauche pour composter. J'en rapporte même chez moi afin d'éviter qu'ils finissent à la poubelle. La copropriétaire du ou quoi n'entend pas se décourager pour autant. J'ai à cœur que ça marche, raconte cette mère de 2 enfants. À la maison aussi, le mot d'ordre est de réduire les déchets. J'achète de la bouffe en vrac, je vais au marché de fruits et légumes. Ces jours-ci, nous sommes 5 à la maison et on ne remplit pas la moitié de nos poubelles. De petits gestes, quoi, qui finissent par faire une grande différence. Dans la tribune Claude Plante, c'est la fin pour Meubles chez Pierre. L'un des plus vieux magasins de meubles de la région de Sherbrooke fermera ses portes au cours des prochains mois. Meubles chez Pierre, sur le boulevard Bourque dans le secteur Rock Forest, cessera ses activités d'ici juin après plus de 55 ans dans le paysage commercial. « Je n'ai pas de relève et c'est de plus en plus difficile de recruter du personnel », confirme à la tribune le propriétaire André Boulanger. « Ça fait 6 mois que je cherche quelqu'un pour conduire mon camion et pour vendre. Je n'en trouve pas. J'ai placé des annonces, mais personne n'appelle. Le bâtiment est à vendre. La date prévue pour la fermeture est en juin. Mais il se peut que Meubles chez Pierre cesse ses activités avant. M. Boulanger a pris possession du magasin il y a 20 ans. Il dit que le commerce est de plus en plus difficile. La clientèle a changé ses habitudes. Les règles ne sont plus les mêmes entre les fabricants et les détaillants. Les gens veulent des meubles fabriqués au Canada ou au Québec, mais en payant le prix de ceux fabriqués en Chine, lance le coloré homme d'affaires. Tu mets une affiche annonçant des rabais de 80 % en liquidation, personne ne vient. Mais tu écris « vente de fermeture », là, les gens arrivent. Durant ces années, des clients sont venus de partout au Québec pour acheter des meubles dans ce commerce ayant ouvert ses portes en 1961. On venait d'aussi loin que de Montréal, Trois-Rivières et du Bas-Saint-Laurent pour s'y procurer des meubles, ajoute M. Boulanger, qui avait débuté dans le domaine en étant actif dans la vente de liquidations et de meubles antiques. La population étudiante a souvent franchi la porte du commerce pour meubler des appartements situés dans les secteurs du Cégep ou de l'Université de Sherbrooke, dit-il. En 1961, la famille Lévesque avait ouvert le magasin de meubles dans cette ancienne étable, d'où le nom initial de la Grange à Pierre. Il doit son nom à son propriétaire de l'époque, Pierre Lévesque. M. Boulanger se souvient d'un fermier en acier tenant une fourche devant le magasin, qui se trouvait alors dans un secteur tout à fait rural et non urbain. Le magasin a été souvent agrandi pour répondre à la demande de la clientèle. On peut encore distinguer une partie du bâtiment agricole initial de l'extérieur. L'intérieur a aussi été rénové à quelques reprises. André Boulanger peut parler pendant des heures de la saga qu'il a vécue à rendre son commerce conforme aux normes de protection contre les incendies. Selon lui, le marché du meuble est appelé à se transformer encore dans les prochaines années. Internet a changé l'écosystème et le fera encore. Entre autres, il prévoit que la location de meubles se développera de façon importante à l'avenir. Un petit peu partout dans les journaux, Marisal a spectaculairement échoué le test de vérité selon Lisée. Vincent Marisal a spectaculairement échoué le test de vérité dès ses premiers pas dans l'arène politique selon Jean-François Lisée. On peut lire cette lettre dans Le Soleil, entre autres choses. L'ancien chroniqueur de la presse, maintenant recyclé en politique sous la bannière de Québec solidaire, est durement attaqué par le chef du Parti québécois. Dans une lettre ouverte obtenue par la presse canadienne jeudi, mais qui paraîtra sur la page Facebook de M. Lisée vendredi matin, alors ce matin. Rappelons que M. Marisal a annoncé en début de semaine qu'il allait briguer l'investiture de QS, Québec solidaire, pour être candidat aux élections d'octobre dans Rosemont, le fief même du chef péquiste. Dans sa lettre, M. Lisée revient sur les événements qui ont fait trébucher son adversaire dans les premières heures de sa nouvelle carrière, en y percevant des incohérences, des contradictions, voire des mensonges. Des médias ont en effet confirmé que M. Marisal était entré en contact maintes fois avec le Parti libéral du Canada au fédéral, soit pour devenir candidat, soit pour être conseiller du premier ministre Justin Trudeau. M. Marisal avait d'abord dit ne pas avoir magasiné ses options politiques pour ensuite admettre qu'il avait négocié avec le PLC. Le chef péquiste poursuit en soulignant que rien, pourtant, ne rapproche le PLC de QS, notamment à propos de l'indépendance. QS est un parti indépendantiste et le PLC est tenu et tenant d'un fédéralisme orthodoxe. Selon M. Lisée, on ne peut pas à la fois être un indépendantiste sincère et vouloir s'associer à l'anti-indépendantiste en chef à Ottawa. De même, le chef péquiste relève d'autres éléments du programme de QS qui sont très à gauche et difficilement compatible avec ceux des libéraux fédéraux en matière économique. Il en conclut que M. Marisal n'a pas de conviction. Transport Canada accueille la principale recommandation du Bureau de la sécurité des transports à la suite de l'écrasement d'un avion d'Air Saguenay à Tadoussac le 23 août 2015 et dans le quotidien d'aujourd'hui. Ainsi, l'organisme de réglementation fédérale consultera l'industrie aérienne de brousse pour décider s'il va ou non imposer l'installation d'indicateurs de décrochage sur tous les DHC2 Beaver exploités commercialement au Canada. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens en cours jusqu'à 11h30, jusqu'à l'émission Au Signal avec Kevin Breton. Et moi, je vous réserve les actualités culturelles, bien sûr. On va vous offrir une chanson de Jacques Higelin qui est mort malheureusement.
Un fier aventurier, fou. fous de chevaucher sauvage. En cavale, hey, j'ai toujours rêvé d'être un gringo pin, chercheur d'or, chasseur de primes, un vrai salaud, hey, un desperado hors la loi. Perdu dans un canyon désert, qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw, j'espère. Yeah. Un brelan d'as planqué dans la manche. Une balle à mettre dans le dos du beau cow-boy solitaire, du héros tombeur de squaw, voleur de chevaux, avoir mon portrait cloué au tableau du shérif. Just wanted. Un desperado hors la loi, perdu dans un canyon désert, qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw, j'espère. Un fier aventurier, fou de chevaucher sauvage, lonesome bad boy.
Et oui, c'était Jacques Higelin de son dernier album, c'est le cas de le dire, malheureusement, Lonesome Bad Boy.
Où on en parle partout dans la presse francophone, entre autres. La chanson française est orpheline de son poète rock le plus flamboyant et une de ses bêtes de scène les plus généreuses. Jacques Higelin est mort vendredi matin à Paris. À l'âge de 77 ans, Aziza, sa femme, Arthur H., Ken Higelin et Isia Higelin ont la douleur d'annoncer la disparition de Jacques Higelin ce matin, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. Les étoiles peuvent attendre. C'est Jean-Christophe Laurence qui signe cet article dans la presse d'aujourd'hui. Il est à Paris. Un œil sur les étoiles, l'autre sur notre planète. Hubert Reeves poursuit sa croisade pour l'environnement. La presse a rencontré l'astrophysicien chez lui à Paris pour parler d'un nouveau documentaire dans lequel il tient la vedette, mais aussi de Churchill du Québec et de la ville après, de la vie plutôt après la mort. Ça devait être une conversation tranquille, sans interférence, mais ce jour-là, l'actualité prend le dessus. Le scientifique Stephen Hawking est mort la veille et de nombreux médias français sollicitent Hubert Reeves pour une réaction ou un commentaire. entre deux coups de fil, l'astrophysicien le plus connu de la francophonie, a tout de même le temps de parler de « La Terre vue du cœur », un nouveau documentaire sur l'environnement signé Yolande Cadrin-Rossignol, dans lequel il est le personnage central. On dit « parler », mais il faudrait plutôt dire « répéter », tant Reeves, 85 ans, ne cesse de marteler la même chose depuis des années, à savoir que la Terre va mal et que si on continue à la saccager, l'espèce humaine disparaîtra. Il le disait il y a 5 ans, il le disait il y a 10 ans. Il en a lui-même pris conscience de façon très sérieuse dans les années 80 et 90, après les premiers cris d'alarme du chercheur américain James E. Henson. La différence est que Reeves se dit aujourd'hui beaucoup moins pessimiste que par le passé. C'est là toute l'essence de son nouveau message. On n'est plus dans la même impression de morosité. On a vu croître le combat pour la restauration. Des événements qui amènent à montrer que la situation n'est pas si désespérée qu'on pense, observe-t-il, assis entre les piles de papier, les statuettes africaines et la dizaine de tableaux qui décorent son salon. On lui fait valoir que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord. Il en est conscient. Mais il a choisi de ne pas baisser les bras devant la multiplication de signaux encourageants. Les citoyens s'organisent, de grandes entreprises révisent leur logique, les énergies renouvelables prennent de l'essor à grande vitesse. L'éducation fait son œuvre, l'écologie est désormais solvable dans l'économie. L'avenir dépend de comment cette prise de conscience va se généraliser. L'idée, c'est de continuer même si on sait que ça ne marchera peut-être pas, dit Hubert Reeves. Et de citer l'exemple de Churchill, dont il se dit un grand admirateur. Au début des années 40, quand on pensait que le nazisme allait détruire la civilisation, Churchill est celui qui a dit « Non, je ne laisserai jamais la civilisation être démolie. » C'est la même chose qu'il faut se dire aujourd'hui. « Je ne laisserai jamais l'humanité être détruite par ses propres méfaits. On ne sait pas si ça va marcher, mais on fait comme si. Ce n'est pas une attitude intellectuelle, c'est une attitude affective. » Un carillon digne de la série X-Files retentit. C'est son téléphone. Il répond. Donne une autre entrevue. Toujours ce ton affable, ce roulement de R à l'ancienne qui le rend immédiatement reconnaissable. Puis il raccroche et nous revient. On lui demande si la Terre l'intéresse désormais plus que les étoiles qui ont longtemps été au centre de ses recherches et de son œuvre de vulgarisation scientifique. « Je m'intéresse toujours aux deux, dit-il. Mais dans le cas de l'écologie, il y a une urgence, alors que les étoiles, elles, peuvent attendre encore un peu. » On aime ses formules de poète, son absence de prétention, de pontification. On aime l'écouter, et lui, visiblement, semble toujours heureux de faire partager son savoir au plus grand nombre. Cela dit, il semble qu'on l'avait un peu oublié. Depuis qu'il vit à temps plein en France, c'est-à-dire depuis 5 ans, l'astrophysicien est médiatiquement moins présent au Québec. Que fait-il de ses journées? À quoi ressemble sa vie parisienne? Je lis beaucoup, j'écris, je prends des marches le long de la Seine, je vais parfois au cinéma. Il passe aussi du temps dans sa maison de Malicorne, en Bourgogne, où il plonge dans ce que les Japonais appellent des bains d'arbres. Pour moi, c'est une façon de me ressourcer. Forcément, on parle du temps qui passe, ou plutôt qui fuit. La vieillesse? Je ne suis pas contre, il y a des avantages, répond-il. Et après, l'idée le laisse moins serein. On est à quelques années d'un autre aspect. On ne sait absolument pas à quoi on sera confronté. Alors, bien sûr, il y a de l'angoisse. Qu'il vous arrive quelque chose de totalement inconnu est quand même préoccupant. Pour autant, il ne croit pas plus en Dieu et ajoute, comme il l'a souvent dit, que ces églises sont les salles de concert. Quand j'écoute de la musique, je pense parfois qu'il y a quelque chose de sublime au-delà. C'est ce qui me laisse penser qu'on participe à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais quoi? God knows. La Terre vue du cœur prendra l'affiche au Québec le 13 avril. Quand le cinéma rend hommage à deux voix marquantes d'Amérique du Sud, Chavela Vargas et Mercedes Sosa seront à l'honneur du 9e Festival du cinéma latino-américain de Montréal. Par la musique, on découvre toute la culture d'un pays ou d'une région. Ensuite, par le cinéma, on l'approfondit. Roland Smith, créateur et programmateur du Festival du cinéma latino-américain de Montréal, conclut ainsi notre entrevue, lui qui, cette année, met à l'honneur de sa programmation deux voix célèbres et engagées d'Amérique du Sud, Chavela Vargas et Mercedes Sosa. C'est un article dans Le Devoir d'aujourd'hui de Katia Tobar. Je vous en lis un extrait. C'est avec le documentaire biographique Chavela, présenté en première québécoise, que s'ouvrira cette 9e édition du FCLM, donc le Festival du cinéma latino-américain de Montréal, organisé au cinéma du Parc du 6 au 15 avril. Composé de rares images de Frida Kahlo et de Pedro Almodovar, le film retrace la vie de cette figure marquante de la musique mexicaine, Ranchera, cette amoureuse éperdue qui a inspiré de nombreux récits romantiques. Celle qui portait des pantalons comme un homme et qui soulageait son trac de scène en buvant de l'alcool, une dépendance qui la rongera. Le FCLM présentera au total 10 films en langue espagnole lors de 19 diffusions sous-titrées en français ou en anglais. Pour Roland Smith, donner une place au cinéma international permet d'éclairer le public sur les enjeux sociaux et politiques qui nous entourent. Le cinéma devient de plus en plus international, mais pas encore au Québec. C'est une véritable disette à l'extérieur de Montréal, un grave manque, dit Roland Smith. Le festival aura lieu donc au cinéma du Parc du 6 au 15 avril. Jusqu'à dimanche, 5300 jeunes de 6 à 12 ans se rencontrent pour des compétitions en 29 sports. Pour y assister et les encourager, rendez-vous sur le site et choisissez votre sport et votre lieu. Il y a des fans zones au Centre Pierre Charbonneau, au Centre sportif Claude Robillard et au Complexe sportif Saint-Laurent. La cérémonie de clôture aura lieu dimanche à 14h30 au Complexe sportif Claude Robillard. Avec l'animateur jeunesse Pascal Morissette, on parle ici des Jeux de Montréal. Et pour terminer cette portion culturelle, demain, le samedi 7 avril, la 11e édition du populaire Ciné-Bazar se tient de 9h à 16h au centre du plateau, au 2275 boulevard Saint-Joseph-Est. Comme toujours, on y trouvera des marchands de films, DVD, cassettes vidéo, d'affiches, de bandes sonores, de magazines, de photos et d'autres objets qui feront la joie tant des cinéphiles que des collectionneurs. La présidente sortante de la SODEC, Monique Simard, sera aussi sur place avec des DVD du stock de production Virage, entreprise qu'elle avait cofondée avec son défunt mari, Marcel Simard. Au total, plusieurs dizaines d'exposants seront sur place.
À la sortie de la villa, juste après l'orage, tu as trébuché, j'ai démarré, on a pris le large. Quitter les rivages, quitter les indélicatesses. L'âme légère et sans personne pour nous tenir en laisse. C'est le cœur. La beauté de l'amour.
collaboration de deux des enfants de Jacques Higelin, Arthur H. et Isia, qui nous chantaient La beauté de l'amour, que l'on retrouve sur l'album Baba Love d'Arthur H.
Et Arthur H. sera au Francofolie de cet été à Montréal. J'imagine qu'il va certainement chanter des chansons en hommage à son paternel, Jacques Higelin, qui nous a quittés à 77 ans. On a appris ça ce matin. Sujet libre, Rima El-Khoury, un article intitulé « Merci de patienter encore 40 ans ». André Leclerc est un homme patient et déterminé, mais 40 ans à cogner à la porte d'un commerce ou d'un bureau inaccessible, avouez que ça commence à être un peu long. Atteint de paralysie cérébrale, André Leclerc se décrit lui-même comme une tête de pioche. Président fondateur de Kéroul, organisme voué depuis 1979 à l'amélioration de l'accessibilité universelle en tourisme, il a besoin de l'être. J'ai fait sa connaissance il y a quelques années alors qu'il m'avait invité à le rencontrer avec sa gang de PC en fauteuil roulant. Des gens atteints de paralysie cérébrale comme lui qui travaillent, contribuent à la société et démontrent les idées reçues sur leurs conditions. Le grand public le connaît aussi sans le savoir. C'est lui qui, en 1988, a inspiré le numéro de « l'handicapé » entre guillemets de l'humoriste Jean-Marc Parent. Si André Leclerc et d'autres défenseurs des droits des personnes handicapées s'impatientent, c'est que les décennies passent et que l'inaccessibilité reste, en dépit des progrès réalisés pour rendre la société plus inclusive. Dans la foulée de l'adoption en 1975 de la Charte des droits et libertés du Québec qui interdisait la discrimination fondée sur le handicap, des mesures visant l'accessibilité des bâtiments ont été inscrites dans le Code de la construction. En 1978, la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées a été adoptée. Cette loi, qui prévoyait l'adoption d'un règlement pour rendre accessibles des bâtiments construits avant 1976, plaçait le Québec à l'avant-garde en matière d'inclusion des personnes handicapées. Le hic, c'est que 40 ans plus tard, ce règlement n'a toujours pas été adopté. Alors que l'Ontario s'est engagé à être accessible à tous dès 2025, le Québec, lui, traîne encore les pieds. Des lois avant-gardistes, c'est très bien, mais un peu plus de cohérence, ce serait encore mieux. Car à quoi bon une loi si elle n'est pas appliquée, se demande André Leclerc. Les lois fondamentales des années 70 resteront des écrans de fumée, tant et aussi longtemps que les dispositions réglementaires conséquentes n'auront pas été adoptées et appliquées. André Leclerc se réjouit des mesures récentes annoncées par le gouvernement en matière d'accessibilité, comme ce programme de subvention à l'accessibilité des établissements touristiques, dont la gestion a été confiée à Kéroul, ou cet autre programme de subvention à l'accessibilité des petits commerces qui sera administré par la Société d'habitation du Québec. Mais on reste malgré tout très loin de l'accessibilité universelle promise il y a plus de 40 ans. Le Code de construction inclut encore aujourd'hui des exceptions qui font en sorte que trop de bâtiments demeurent inaccessibles aux personnes handicapées. Les commerces de moins de 300 mètres carrés ou les bâtiments d'affaires de deux étages et moins font partie de ces exceptions. Comment est-ce encore possible en 2018 de construire de nouveaux bâtiments qui ne soient pas accessibles à tous? Ce qui n'est pas accessible n'est pas acceptable. Telle est la devise qui devrait valoir pour tous les nouveaux bâtiments et les espaces ouverts au public, croit André Leclerc. Malheureusement, au lieu d'adopter les mesures qui s'imposent, le gouvernement laisse aux personnes handicapées le fardeau de porter plainte à la Commission des droits de la personne contre les commerces qui leur sont inaccessibles. C'est interminable. Ça en devient décourageant, dit Linda Gauthier, cofondatrice du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le Rapplique, qui, sans subvention aucune depuis près de 10 ans, se bat bec et ongles pour l'accessibilité universelle et voit les plaintes s'accumuler sur son bureau. Après que des commerçants du plateau Mont-Royal eurent reçu des plaintes du Rapplique, Charles-Olivier Mercier de la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal s'est dit qu'il fallait trouver une façon de faire les choses autrement. « J'ai lunché avec Linda », on s'est dit « Travaillons ensemble ». De ce lunch est né à la fin de l'année 2015 une alliance originale entre des gens d'affaires et des organismes représentant des personnes handicapées, le Regroupement pour l'accessibilité des établissements commerciaux et d'affaires du Québec. On sent qu'on a un rôle à jouer comme acteur économique, dit Charles-Olivier Mercier. Au-delà des enjeux commerciaux, aucun commerçant n'a intérêt à se priver d'une clientèle. Il y a là une question de principe qui l'interpelle. Il souhaite à son tour interpeller l'État pour qu'il prenne ses responsabilités en matière d'accessibilité universelle. C'est un peu comme si on faisait face à une inondation. On a une digue réglementaire, mais il manque des sacs de sable, dit Charles-Olivier Mercier de la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal. D'où l'importance d'éliminer les exclusions prévues au Code de construction et d'offrir des mesures incitatives plus généreuses aux commerçants pour colmater les brèches. Lorsqu'on parle d'accessibilité, certains ont l'impression que c'est un problème qui ne concerne qu'une toute petite minorité de citoyens, mais en fait, cela concerne tout le monde, parce qu'on vieillit tous, parce qu'on peut être parent de jeunes enfants, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Moi, j'étais à des années-lumière de savoir que ça allait m'arriver, me dit Linda Gauthier, qui a reçu un diagnostic de sclérose en plaques de forme progressive en 1996 et doit désormais se déplacer en fauteuil roulant. Qu'attend le gouvernement pour agir? En ce qui concerne les bâtiments construits avant 1976, nous sommes au fait du problème. Des pistes de solutions concrètes sont en cours d'évaluation, me dit Clémence Beaulieu-Gendron, attachée de presse de la ministre responsable de l'habitation, Lise Thériault. Même réponse reçue par courriel quant à l'annulation des exceptions prévues au Code de construction. Nous sommes au fait des enjeux découlant des exceptions comprises dans le Code de la construction concernant l'accessibilité des petits commerces. La Régie du bâtiment du Québec se penche présentement sur différentes pistes de solutions. Traduction libre de Linda Gauthier de ses réponses polies, qui n'en sont pas vraiment. C'est comme dire « On analysera ça dans 40 ans. Votre appel est important pour nous. Merci de patienter. » Les droits des personnes handicapées, en principe, personne n'est contre, bien sûr. On a vu l'indignation provoquée ces derniers jours par la décision de Walmart de mettre fin à un programme d'inclusion. Saine indignation qui n'est malheureusement pas toujours suivie de saine décision politique. L'Université de Montréal compte à rebours pour le campus de la gare de Triage, le nouveau campus des sciences de l'Université de Montréal qui occupe le site de l'ancienne gare de Triage d'Outremont, accueillera professeurs et étudiants dans moins d'un an et demi. Visite guidée avec des photos dans la presse aujourd'hui, le chantier de 350 millions de dollars visait la certification environnementale LEED, L-E-E-D. Or, avec les hottes, il a fallu installer des récupérateurs de chaleur pour l'air chaud qu'on envoie dehors, explique l'architecte Annick Schooner. On avait des restrictions aussi au chapitre de la hauteur. Avec les laboratoires scientifiques LEED, or, c'était beaucoup de travail. Alors, c'est LEED, or. Les deux édifices qui ouvriront leurs portes à l'automne 2019 abriteront respectivement les activités de recherche et d'enseignement des facultés de chimie, de physique, de biologie et de géographie. On fêtera en 2020 le centenaire du département de chimie et on a prévu le faire dans le grand atrium, explique la chimiste Andrea Schmitzer, qui est aussi vice-doyenne aux infrastructures et responsable du déménagement vers le nouveau campus. Les laboratoires de chimie ont dû être installés au troisième étage de manière que les solvants inflammables ne soient pas trop hauts pour les pompiers. Ça aurait été plus simple pour les hottes et les tuyaux d'évacuation de l'air des labos si les labos de chimie avaient été plus hauts. « Mais on s'est adapté », dit l'architecte Annick Schooner. L'intersection du boulevard de l'Acadie et de la rue Beaumont est très achalandée et peu pratique pour les piétons. Il est impossible de construire un passage souterrain vers le métro l'Acadie sous la rue Beaumont en raison des servitudes, explique l'ingénieur Alain Boilard, directeur général affecté au développement du campus MIL. Je sais qu'il y aura un réaménagement de toute l'intersection. « C'est déjà tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 6 avril 2018. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et vous pouvez aussi nous écouter sur notre site Internet à Canal M de Vues et Voix. Un grand merci à Mathieu Tessier, à la mise en onde et au choix musical. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Ici Hélène Denis qui vous dit à lundi.